Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre. Je m'appelle Jade Anchaud, je suis psychologue FSP, thérapeute de couple et sexologue, ici, au sein du Centre de sexologie et couple de la Côte. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode qu'on a intitulé « Sexualité et relations, quand consulter, pourquoi, comment ?». L'idée de ce podcast, c'est qu'à chaque épisode, j'aurai la chance de recevoir une thérapeute du Centre pour explorer des thématiques qui nous touchent tous et toutes, que vous soyez en relation, célibataire ou simplement curieux, curieuse d'en savoir plus sur les questions relationnelles et sexualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir comme invitée Carole Mercet, psychologue FSP, thérapeute de couple et sexologue, avec qui on va démystifier la sexothérapie et montrer qu'elle s'adresse à des personnes tout à fait normales, confrontées à des difficultés courantes, souvent invisibilisées ou mal comprises. Bonjour Carole, merci beaucoup d'être là.
Salut Jade.
Donc pour commencer, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots et nous dire ce qui t'a amené à travailler en sexologie ?
Alors moi je suis psychologue depuis 1994. J'ai travaillé d'abord dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la sexologie et la thérapie de couple. Et puis il y a un certain nombre d'années, j'ai découvert une approche qui est le sexo-corporel, que j'ai trouvé absolument géniale. Et du coup j'ai décidé de me former dans ce domaine de la sexologie. Et après, en travaillant dans ce domaine, je me suis rapidement rendu compte que ce serait nécessaire de me former aussi pour accompagner les couples. Donc je me suis formée en thérapie centrée sur les émotions.
Ok. Mais donc c'est quoi une sexologue ? Comment est-ce que vous travaillez ?
Alors, pour moi, un sexologue, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler sur la sexualité, avec des gens qui viennent le voir parce que soit ils ont des difficultés dans ce domaine, soit aussi ils se posent des questions par rapport à leur sexualité. Et puis, on va travailler en fonction de ce que la personne souhaite aborder et puis ce qu'elle souhaite comprendre, changer, etc.
Ok. Et c'est quel type de personnes qui viennent te voir en sexologie, dans ta clinique ?
C'est des personnes tout à fait normales. Et ça, c'est un peu... Des fois, on me dit, mais c'est des gens tordus qui doivent venir te voir en sexologie. Et non, pas du tout. C'est vraiment des personnes tout à fait normales. Mais c'est vrai qu'on croit souvent que la sexualité, c'est naturel. Donc, on doit tout savoir et que ça ne s'apprend pas. Parce que finalement, l'être humain, il se reproduit depuis des millions d'années. Donc, tout le monde doit savoir. Sauf que entre se reproduire et la sexualité, c'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas de cours vraiment pour apprendre la sexualité. Oui, mes patients me parlent des cours qu'ils ont eu en éducation sexuelle. Mais finalement, c'est assez limité à la prévention des maladies ou à prévenir des grossesses indésirables. Dans le meilleur des cas, il y a aussi le fait qu'il faut s'écouter et se faire plaisir dans la sexualité. Comment on fait ça ? Mais finalement, personne ne l'apprend. Donc, c'est pas si évident que ça pour certaines personnes. Et puis les gens qui viennent me consulter, pour les hommes, ce qui est le plus fréquent, c'est les hommes qui viennent me voir pour des dysfonctions érectiles et des éjaculations prématurées. Ça, c'est vraiment les choses les plus fréquentes. Et puis, pour les femmes, c'est des femmes qui viennent me consulter pour du vaginisme et de la dyspareunie, donc les douleurs à la pénétration, et aussi parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre l'orgasme. Ça, c'est les trucs les plus courants. Après, il y a d'autres choses aussi.
Est-ce que tu es d'accord de nous expliquer ce que c'est le vaginisme en quelques mots ?
Le vaginisme, en fait, c'est l'impossibilité d'être, pour une femme, d'être pénétrée dans son vagin par le pénis de son partenaire.
Donc souvent, dyspareunie et vaginisme sont liés, tu dirais ?
Souvent, mais pas toujours. On peut avoir des douleurs à la pénétration, mais être pénétrable. Là, on va souffrir que, je mets des gros guillemets, que de dyspareunie. Et puis, la personne qui est vaginique, elle ne peut pas être pénétrée, mais elle n'a pas forcément de douleur.
Merci beaucoup pour ces explications. Comment est-ce que toi, tu travailles avec tes patients-patientes qui rencontrent ce genre de difficultés que tu
viens d'écrire ? Moi, je travaille avec l'approche sexo-corporelle. C'est en fait une approche considère que la sexualité, c'est un apprentissage, comme les autres arts corporels, finalement. Quand on a les gens qui font du vélo, ils ont dû apprendre à faire du vélo. Les gens qui font de la danse, ils ont dû apprendre à faire de la danse. La sexualité, c'est la même chose. Donc, selon l'approche du sexo-corporel, si on fait des nouveaux apprentissages, on va pouvoir améliorer ou modifier sa sexualité. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette approche, parce que c'est vraiment un message super positif. Et puis, les difficultés, elles sont pas, on n'est pas condamné à les vivre toute sa vie. Donc, je trouve que ça, c'est top.
Et concrètement, ça se passe comment en séance ?
Alors, dans la première séance, la personne, je fais connaissance en fait avec la personne. Elle va m'expliquer ce qui l'amène, quelle est sa difficulté, ou qu'est-ce qu'elle a envie de changer ou améliorer. Puis après, on va avoir une phase d'évaluation qui va durer souvent à peu près 3 séances. Enfin, c'est pas fixe, mais ça donne un peu une idée. Et puis pendant cette phase, je vais vraiment poser des questions à la personne pour comprendre sa difficulté. Est-ce que la difficulté se produit à chaque fois ? Est-ce qu'il y a des moments où elle est moins présente ? Je vais essayer de comprendre aussi comment cette personne a développé sa sexualité, quels sont les messages parentaux qu'elle a reçus, comment se sont passées ses relations précédentes, s'il y en a. Est-ce qu'elle a des problèmes médicaux ? On va vraiment faire une évaluation assez complète. Et puis ensuite, il va y avoir une séance un peu de bilan, où là, je vais proposer à la personne différentes choses qui vont lui permettre d'améliorer et puis d'arriver au changement qu'elle souhaite. Et puis là, il va y avoir un accompagnement pour qu'elle puisse mettre ça en place. Il y a souvent des exercices à faire à la maison aussi. Et voilà, donc après le suivi va durer aussi longtemps que la personne elle souhaite que je l'accompagne par rapport à ça.
Tu es aussi thérapeute de couple. Quand tu reçois des couples, ils viennent plutôt pour des questions relationnelles ou des questions autour de la sexualité?
En fait, les deux. Mais souvent, finalement, les choses elles sont liées, parce que s'il y a des difficultés relationnelles, souvent ça impacte la sexualité. Et s'il y a des difficultés sexuelles, souvent ça impacte aussi l'aspect relationnel. Donc au final, c'est plutôt la porte d'entrée qui est différente. Donc le couple, il va soit définir son problème et le décrire comme plutôt sexuel ou le décrire comme plutôt relationnel. Et c'est plus souvent le cas, mais les deux arrivent en fait.
Et comment est-ce que tu travailles avec les personnes en relation quand il n'y a pas une demande sexologique ?
Alors, je travaille avec la thérapie centrée sur les émotions, qui est une approche que j'aime beaucoup. En fait, l'idée de cette approche, c'est que quand un couple vit des tensions, quand ils se disputent, quand ça crie, ou quand ils boudent, etc., en fait, derrière ces comportements, il y a des émotions sous-jacentes. Et puis, si elles sont conscientisées et partagées, ça va permettre en fait d'améliorer la situation entre les partenaires.
Donc, c'est une approche pour les gens qui sentent leurs émotions et qui sont au clair avec ce qu'ils ressentent.
Alors non, pas du tout. Non, c'est... Alors, ça peut, bien sûr, mais c'est vraiment une approche qui peut convenir à tout le monde. Alors après, le critère, bien sûr, c'est d'être d'accord, d'aller un petit peu creuser ses émotions. Mais c'est quand même possible pour des gens qui ne sont pas du tout familiers avec ça ou qui ont jamais appris à le faire, qui n'ont jamais appris à se connecter avec leurs émotions. Puis en fait, c'est justement mon travail de thérapeute de les aider à pouvoir le faire en fait. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde.
Mais c'est vrai que c'est assez drôle ce que tu dis parce que moi dans ma pratique, dans ma clinique, souvent les gens ils ont peur quand on leur parle d'émotions. Et ce que j'aime bien leur dire, c'est que moi je suis une guide à émotions et que je vais creuser et que je vais je les amener. C'est un accompagnement et on y va petit à petit. Et il y a tout un processus. On va pas directement dans les émotions profondes.
Non. C'est vraiment ça. C'est vraiment les accompagner sur ce chemin. Ouais, absolument.
Mais alors comment est-ce que t'explique que conscientiser ses émotions qu'on vient de discuter améliore la dynamique du couple, améliore le bien-être du couple?
Ça c'est un peu par la théorie de l'attachement qui a été développée par Bowlby. En fait, cet auteur, il a montré que tous les êtres humains, du moment où ils naissent jusqu'au moment où ils meurent, ils ont tous besoin d'avoir un lien émotionnel sécur avec une personne de sécurité. Et ça, ça, vraiment, ça permet d'avoir un havre de sécurité, ça permet de donner de la force pour faire face aux choses de la vie. Alors quand on est enfant, bah, ce lien en général, il se fait avec nos parents. Et quand on est adulte, bah, c'est souvent avec notre partenaire. Alors pas que, mais souvent. Et en fait, dans notre relation avec notre partenaire, quand on sent que ce lien il pourrait être menacé, par exemple parce que le partenaire il s'éloigne en communiquant pas ou en étant tout le temps sur son téléphone, ou alors que le partenaire il est en colère, il nous crie dessus, etc. Bah, dans notre cerveau, il y a un signal d'alarme qui se met en marche. Et du coup, on va adopter des comportements pour réguler tout ça. Et dans les situations où les couples viennent me voir, en général, ces comportements de régulation, ben, ils accentuent le système d'alarme du partenaire et du coup, les choses, elles s'enveniment plutôt que de se calmer. Donc en fait, en séance, comprendre ce système d'alarme, sentir les émotions qu'il y a en dessous, ben, justement, ça va permettre d'éviter ces comportements qui péjorent la relation.
Et donc en séance, tu aides les partenaires à partager ces émotions profondes ?
Ouais, en fait, c'est ça. Je vais les aider à exprimer de nouvelles façons de communiquer l'un avec l'autre pendant les séances pour que, en fait, ben, progressivement, ils puissent aussi le faire en dehors des séances sans que je sois là. Et ça va leur permettre effectivement d'améliorer en fait, leur relation.
Mmh. J'aime bien dire aussi à mes patients qu'ils vont apprendre un nouveau langage, plus vulnérable.
C'est ça.
Plus sensible, où en fait on vient parler différemment.
Oui, puis où en fait on va pouvoir, chaque partenaire va pouvoir se rendre compte à l'intérieur de lui de ce qui se passe et pouvoir vraiment le communiquer et puis le partager avec son partenaire. Ouais.
Et donc sur les questions d'intimité en lien avec la sexualité, est-ce que tu travailles aussi avec les émotions ?
Alors oui. Mais comme je disais avant, l'aspect sexuel et l'aspect relationnel, ils sont vraiment très très liés. Donc bien sûr que quand il y a des difficultés sexuelles, ben, ça crée des émotions, ça crée parfois des choses qu'on ne se dit pas. Donc aider les partenaires à sentir ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe entre eux quand il y a ces difficultés sexuelles, ben ça rejoint un peu les difficultés relationnelles. Donc en fait, le processus va être un petit peu le même, oui. Mmh. Mais on va aussi travailler concrètement sur leur sexualité, en fait, en discutant comment ils peuvent concrètement changer des choses, améliorer, développer leur répertoire sexuel, etc.
Et selon toi, à quel moment est-ce qu'il faut consulter ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, je dirais que pour les gens qui consultent en individuel, pour de la sexualité, c'est utile de consulter quand notre difficulté, elle devient trop, trop embêtante, en fait. Quand ça prend trop de place, en fait. Et quand ça devient, entre guillemets, un peu handicapant. Je pense que ça, c'est le moment de consulter. Puis pour les couples, ben j'aurais envie de dire la même chose, quand les difficultés deviennent trop importantes. Mais peut-être ce que je dirais aussi aux couples, c'est que, en fait, souvent ce que je vois dans ma pratique, c'est que le couple a des difficultés, un des deux partenaires propose de venir consulter, et puis l'autre refuse. Donc voilà, bah donc le couple ne vient pas, les difficultés perdurent, le partenaire qui souhaite consulter insiste, essaye vraiment de convaincre l'autre, qui veut plus, qui veut pas. Et puis au bout d'un certain temps, celui qui voulait vraiment consulter en a marre, et puis parfois dit « bon ben voilà, maintenant on s'arrête, la relation est finie ». Et là, le partenaire qui ne voulait pas consulter, là, tout d'un coup, prend la mesure, en fait, de la nécessité de venir consulter. Et là, en général, c'est des couples qui arrivent un peu en mode de crise. Et le problème, c'est que parfois, c'est trop tard. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est si votre partenaire vous demande de consulter, attendez pas trop et faites-le. Parce que sinon, ça peut être problématique.
On arrive bientôt à la fin du podcast. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens qui nous écoutent ?
J'aurais envie de leur transmettre qu'il n'y a pas de honte à consulter, ni en thérapie de couple, ni en sexologie. Que plein de monde, mais vraiment plein de monde, la vie n'est pas parfaite. Notre vie sexuelle n'est pas parfaite, notre vie de couple n'est pas parfaite. Et demander de l'aide, c'est juste donner la chance de pouvoir améliorer la situation et puis de pouvoir être plus à l'aise dans sa vie sexuelle, dans sa vie de couple. Et ça, je trouve que c'est vraiment important.
Merci beaucoup, Carole, pour ces explications et cet échange.
Avec plaisir, Jade.
Si cet épisode a fait écho à ce que vous vivez ou vous a donné envie d'en parler, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site du centre www.sexologiecouple.com. Merci à vous pour votre écoute. C'était le 3e épisode du podcast du centre. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.